16h25, c'est l'heure de notre duo sportif, Philippe Quentin et Martin McGuire. On va commencer avec Philippe. Philippe, Marvin Miller, là. C'était qui?
Marvin Miller, il a été directeur de l'Association des joueurs du baseball majeur et son influence dans l'évolution du sport professionnel, elle est immense.
C'était le président du syndicat, dans
exactement.
Le fond.
Et c'est lui qui s'est vraiment battu pour les droits des joueurs à une époque où les joueurs étaient les valets des propriétaires. Ils étaient associés à une équipe qui les choisissait à l'âge de 16 ou 17 ans, puis ils restaient collés à cette équipe-là en fonction de ce qu'on appelait la clause de réserve. C'était quoi la clause de réserve? C'était la même chose au hockey, d'ailleurs. C'était dans tous les sports, c'était pareil. C'était une clause qui faisait en sorte que quand une équipe te choisissait jeune, ben, il fallait toujours que quand ton contrat était expiré, tu étais obligé de signer un contrat avec cette équipe-là, peu importe l'offre.
Tu étais prisonnier de ton
équipe.
C'est
ça. C'est pour ça que des joueurs comme au hockey, Gordie Howe, Maurice Richard, ils ont passé toute leur carrière avec la même équipe. Ils n'avaient aucun pouvoir de négociation. Alors, tout à coup, le syndicat des joueurs du baseball, ils se sont dit, ça n'a pas de bon sens, il faut qu'on arrête ça. Alors, Curt Flood s'est battu contre ça. Mais vraiment, la personne qui a mené ce combat-là, c'est Marvin Miller. Et Marvin Miller, donc, il était détesté des propriétaires d'équipe parce que c'est grâce à lui que l'autonomie, ça a été comme inventé, puis que les joueurs ont commencé à défendre leurs droits, puis ça a entraîné une hausse des salaires vertigineuse. Alors, il est vraiment une des personnes les plus importantes dans l'histoire du sport professionnel. Son travail a aussi eu une influence dans tous les autres sports. Je parlais du hockey, c'est la même chose aussi au basketball et dans une moindre mesure au football. Alors, Marvin Miller, malgré cette importance exceptionnelle dans l'histoire du sport, n'a jamais été choisi au temple de la renommée du baseball. Il a été plusieurs fois pris en considération, mais jamais il y avait le pourcentage de votes requis. On peut se douter qu'il y a bien des gens qui n'ont pas aimé justement tous ces bouleversements contre l'ordre établi qui avait été là pendant des années, puis qui disaient « Non, jamais tu seras au temple de la renommée du baseball ». Malheureusement, il est mort en 2012, mais son nom a continué d'être soumis à chaque année dans des comités de vétérans. Et là, hier, nouvelle sensationnelle, Patrick, il a enfin été élu au temple de la renommée du baseball. Il sera intronisé l'été prochain à titre posthume. C'est quand même une grande nouvelle, mais encore là, il avait besoin de 3/4 des votes. Il avait besoin de 12 voix sur les 16 voteurs. Ben, il y en a eu 12. Il n'y en a pas eu une de plus. Ça veut dire qu'il y a encore 4 personnes qui ont voté contre, qui n'ont pas mis son nom. Et ça, le groupe qui vote, ce sont des anciens joueurs, des anciens dirigeants d'équipe et aussi des historiens du baseball, souvent des anciens journalistes. Alors donc, parmi ce groupe-là, des gens qui connaissent à fond l'industrie, qui sont familiers avec tous ces rouages, avec l'histoire du baseball, il y en a 4 qui ont trouvé qu'il n'avait pas sa place au temple de la renommée. Ça aussi, je trouve que c'est une nouvelle en soi. Mais au moins, il y en a 12 qui ont voté de la bonne façon. Et Marvin Miller, justice est rendue, il accède enfin au temple de la renommée.
Et il aura contribué, ce monsieur-là, dans le fond, à forcer les propriétaires à mieux partager la tarte financière.
Exactement. Puis c'est justement avec l'autonomie, puis à faire en sorte que les joueurs ne sont plus prisonniers de leur contrat pour toute leur carrière. Puis au hockey, un des joueurs qui a brisé ce monopole-là, c'est Bobby Hull. Quand Bobby Hull s'est joint à l'Association mondiale de hockey, la Ligue nationale de hockey a poursuivi en disant « Hey, ton contrat, même s'il est terminé, tu nous appartiens toujours, tu n'as pas le droit d'aller jouer dans une autre ligue. » Et finalement, c'est un juge de Philadelphie qui a émis un jugement extrêmement sévère à ce moment-là. C'était en novembre 1972 pour dire non, il a le droit de changer de ligue quand son contrat est terminé. Ça a été la fin de la clause de réserve dans le sport professionnel.
OK, parfait. Et un des effets de ça, ce sont les contrats, disons, dignes des pharaons. Et il y a un type qui s'appelle Steven Strasburg, qui est des Nationals de Washington. Lui, il a touché le gros lot.
Oui, c'est ironique. Ça vient à peu près en même temps. Steven Strasburg, avec les Nationals, vainqueur de la Série mondiale, avait choisi l'autonomie. Il aurait pu exercer l'option à son contrat. Il avait encore 100 millions de dollars de garantie. Il a dit non, je vais tester le marché des joueurs autonomes. Les Nationals ne voulaient pas le perdre. Alors, il a signé une nouvelle entente avec les Nationals de Washington pour 7 ans. La somme, Patrick, de son contrat, c'est 245 millions de dollars. Donc, une moyenne annuelle de 35 millions de dollars au cours des 7 prochaines années. Cet argent-là est entièrement garanti. Alors, contrairement, par exemple, au football, dans la Ligue nationale de football, souvent, on va voir un joueur, un carrière qui signe un contrat de 150 millions, dire « Oh, wow! » Dans la Ligue nationale de football, attention, les contrats sont rarement garantis. Alors qu'au baseball et au hockey, de façon générale, ils le sont. Donc, c'est un immense contrat. Et tantôt, on en parlait entre collègues. collègues en régie, puis on se disait, oh, quand on voit des chiffres comme ceux-là, puis qu'on pense au retour des expos, on se dit, est-ce que Montréal pourrait supporter des contrats comme ceux-là? À ça, moi, je dirais, il y a deux réponses. Je pense que ce serait difficile des contrats comme ceux-là, mais en revanche, ce ne sont pas toutes les équipes. T'sais, les Royals de Kansas City ne donnent pas de contrats comme ceux-là. Non, les Pirates de Pittsburgh non plus, puis les Athletics d'Oakland non plus.
Évidemment, mais Philippe, ça veut dire que l'industrie du baseball peut générer des revenus de ce calibre-là.
Tout à fait.
Et ça devient un peu ironique après ça d'entendre l'industrie du baseball dire aux États américains, aux villes américaines, « Hey, on a vraiment besoin d'argent public pour construire nos stades. »
Ça devient assez ironique et c'est drôle parce qu'aux États-Unis, on voit que c'est pas tout le monde qui pense pareil de ce côté-là. Il y a des États maintenant qui disent non. Il y en a d'autres qui ouvrent encore la porte.
Parfait. Merci, Philippe. On te retrouve demain. Et là-dessus, on s'en va voir notre ami Martin McGuire. Salut, Martin.
Allô, Patrick.
Donc, un beau vendredi à New York.
À Pittsburgh.
Non, mais vendredi passé.
Ah, tu parles de vendredi passé.
Oui. Ben, faut pas l'oublier, on a gagné, là.
Non, certainement. Écoute, je pense que ce que le Canadien a bâti là, c'est une consolidation d'une mentalité un peu plus défensive, un jeu un peu plus serré, mais qui va être tellement payant à moyen terme, et on l'espère à long terme pour le Canadien. Je pense que la performance contre les Islanders, qui était pas le match avant, mais l'autre précédent, et celle contre les Rangers à New York, va renforcer ce message-là. Puis d'ailleurs, celui qui en a parlé haut et fort vendredi dans le vestiaire après le match, c'est Carey Price. Alors que Weber l'a répété encore ce matin en disant on joue mieux défensivement, on est plus conscient, peut-être un peu plus conservateur, mais ça nous va beaucoup mieux. Alors là, en l'espace d'à peu près 72 heures, c'est les deux grands leaders de cette équipe-là qui viennent d'établir que la norme défensive aura été le match contre les Islanders et celui contre les Rangers.
Excellent. Puis Max Domi, lui, il continue à se chercher pas mal, là, pauvre Max.
Ouf, il se cherche un petit peu. Écoutez, je vais vous faire entendre Claude Julien aujourd'hui. Claude Julien a résumé ça à quelque chose près en disant « Si Max veut marquer des buts, il va devoir aller se mettre le nez dans la cuisine. » On va entendre le coach, puis je reviens avec quelques détails.
On s'est habitué à le voir l'année dernière, puis on sait qu'est-ce qu'il est capable d'amener. Présentement, je te dirais qu'il cherche peut-être à lever son jeu d'un cran, là. Puis c'est sûr qu'on a besoin de ça aussi. Puis c'est encore là, c'est de s'assurer de bien travailler, puis d'aller dans les régions où ce que tu peux marquer des buts. Ça, c'est d'aller vers le filet. Puis l'an passé, il lançait beaucoup, puis c'est quelque chose qu'il doit retrouver. Parce que si tu regardes, disons, sa carrière dans la Ligue nationale, il y a eu une bonne première saison, deuxième saison un peu moins bonne. Ensuite, il y a eu une blessure aussi, troisième saison. Il se retrouve ici, une autre bonne saison. Alors, c'est pour des jeunes joueurs, là, c'est de trouver ce qu'on appelle « consistency in your game », là, d'année après année. Puis l'an passé, on a vu un bon côté de Max, puis c'est d'espérer de retrouver ce jeu-là qu'il avait l'an passé. On l'aide avec certains aspects de son jeu. C'est plus une situation de se diriger vers le filet, tu sais, de jouer à l'intérieur de ces dots-là, puis d'être affamé autour du filet.
On sent un peu la lassitude, hein?
Oui, absolument. Quand le coach dit on lui aide, là, je vais vous traduire ça en peu de mots, on lui aide, là, c'est là on lui a donné deux très bons ailiers qui marchent bien, c'est-à-dire Arturi Lehkonen qui travaille fort, qui fait jamais de compromis défensif, puis on lui a donné Armia qui est capable de protéger la rondelle. Puis je vais vous faire une petite prédiction, là. S'il n'y a pas grand-chose de plus qui arrive bientôt avec Max Domi, là, les deux Finlandais vont jouer avec Suzuki. C'est ce qui va arriver bientôt, là. Alors, dans la hiérarchie, Domi va se faire dépasser. Il y a seulement deux passes à ses sept derniers matchs.
Wow.
Puis actuellement, là, Shea Weber a plus de points que lui. Brandon Gallagher a plus de points que lui. Et Philippe Dano, avec ses 23 points, l'a presque doublé au moment où on se parle. Alors, tu sais, Domi souhaitait s'établir après sa saison de l'année passée, mais il joue pas comme un joueur qui est en mesure de s'établir. Puis c'est pas juste une question de points, Patrick. Il y a la fâcheuse habitude de se trouver dans le trouble, de faire des gaffes sur la glace. Puis il fait pas toujours passer l'équipe en premier là, sur un des derniers matchs de l'équipe. Là, au lieu de faire un repli défensif agressif, là, il regarde l'arbitre avec les deux bras dans les airs parce qu'il s'est fait moucher le nez là, puis l'arbitre l'a pas vu. C'est des choses comme ça que Domi doit absolument éliminer s'il veut être considéré comme un bon joueur. Puis l'ironie dans ça, c'est qu'on est à Pittsburgh et demain, le Canadien va jouer contre Galchenyuk, le joueur contre qui on l'a échangé. Et ça va pas mieux ici avec Galchenyuk, même que c'est pire avec Galchenyuk. Le directeur général ici à Pittsburgh a même dit, là, en fin de semaine, il a dit quand nos blessés vont revenir, il va tout simplement être un joueur à échanger. Ouais. Alors, tu sais, Domi rapporte plus aux Canadiens que ce que Galchenyuk rapportait, mais je pense que si on veut pas qu'il y ait une glissade dans le cas de Domi, il faut que les choses se mettent à mieux aller.
T'as bien raison. Merci beaucoup, Martin. On te reparle demain.
À demain.
OK, salut. 16h35 et au retour, c'est Catherine Beauchamp qui s'en vient. Elle a une entrevue avec Sébastien Moreau. Qui est Sébastien Moreau? Un gars qui a une compagnie qui intéresse aussi Hollywood.